Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Et aujourd'hui, nous abordons une immense question qui vient d'être soulevée et qui ébranle l'ensemble du monde de l'art. Il s'agit de la restitution du patrimoine africain français. Et sans doute que cela va aller bien au-delà. En effet, le 28 novembre 2017, dans l'amphithéâtre de l'université de Ouaga 1, le président Macron fit un discours de rupture, proposant de procéder à des restitutions d'œuvres des collections publiques françaises en faveur du patrimoine africain en Afrique, considérant que le continent avait été spolié. Cette proposition partait d'un constat simple, 90% du patrimoine d'Afrique subsaharienne est conservé aujourd'hui hors du continent. Et la jeunesse, la population très jeune de l'Afrique, est séparée de la fécondité de sa propre culture. Cette déclaration fut un choc formidable et un rapport très fouillé a été demandé à deux universitaires de haut niveau, Bénédicte Savoie, qui est professeur d'histoire de l'art à l'Université technique de Berlin, titulaire de la chaire d'histoire culturelle au Collège de France, et Felwine Sarr, professeur d'économie à l'Université Saint-Louis du Sénégal et auteur de nombreux livres sur la culture et les mutations de l'Afrique. Le livre, issu de ce rapport et qui vient de paraître au Seuil, est écrit avec soin, fruit de recherches et de consultations sérieuses. Il est passionnant, il est emporté, on le jugera de parti pris ou pas, mais il y a une vraie qualité de travail et ses conclusions vont être débattues ici. Le président Macron a-t-il ouvert une boîte de Pandore qui videra une grande partie des musées occidentaux de leur contenu au nom des cultures locales qui ont été spoliées? Ou a-t-il ouvert une brèche salubre dans nos bonnes consciences et posé les fondements d'une nouvelle relationnalité selon une philosophie universaliste inspirée des Lumières? C'est ce dont nous allons débattre dans un instant avec des invités de haut niveau que je remercie vivement d'être ici. Mais écoutons tout d'abord le président Macron.
Aujourd'hui, nous sommes orphelins. Nous sommes orphelins, en quelque sorte, d'un imaginaire commun. Nous souffrons d'un imaginaire qui nous enferme dans nos conflits, parfois dans nos traumatismes, d'un imaginaire qui, je dirais, n'est plus le vôtre, n'est plus le nôtre. Et je veux reconstruire cet imaginaire commun et d'avenir autour de trois remèdes. Le premier remède, c'est la culture. Dans ce domaine, je ne peux pas accepter qu'une large part du patrimoine culturel de plusieurs pays africains soit en France. Il y a des explications historiques à cela, mais il n'y a pas de justification valable, durable et inconditionnelle. Le patrimoine africain ne peut pas être uniquement dans des collections privées et des musées européens. Le patrimoine africain doit être mise en valeur à Paris, mais aussi à Dakar, à Lagos, à Cotonou. Ce sera une de mes priorités. Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique.
Après cette déclaration extraordinairement troublante et intéressante, audacieuse pourrait-on dire, il y a des nuances et le président enchaîne immédiatement.
Ça supposera aussi un grand travail et un partenariat scientifique, muséographique. Parce que ne vous trompez pas, dans beaucoup de pays d'Afrique, ce sont parfois des conservateurs africains qui ont organisé le trafic. Et ce sont parfois des conservateurs européens ou des collectionneurs qui ont sauvé ces œuvres d'art africaines pour l'Afrique en les soustrayant à des trafiquants africains. Notre histoire mutuelle, elle est plus complexe que nos réflexes parfois. Mais le meilleur hommage que je peux rendre non seulement à ces artistes, mais à ces Africains ou ces Européens qui se sont battus pour sauvegarder ces œuvres, c'est de tout faire pour qu'elles reviennent. Mais c'est de tout faire aussi pour qu'il y ait la sécurité, le soin qui soit mis en Afrique pour protéger ces œuvres. Et donc ces partenariats prendront aussi toutes les précautions pour qu'il y ait des conservateurs bien formés, pour qu'il y ait des engagements académiques et pour qu'il y ait des engagements d'État à État pour protéger ces œuvres d'art, c'est-à-dire votre histoire, votre patrimoine et si vous m'y autorisez, le nôtre.
Vous avez, en écoutant le président Macron, compris, il s'en est bien expliqué, la complexité de cette volonté. Pour en parler, pour en débattre, pour comprendre les enjeux, j'ai trois invités prestigieux et je suis très heureux de les recevoir aujourd'hui. Tout d'abord, Yves Le Fur, grand commissaire d'exposition et surtout concerné au premier titre comme directeur des collections et du patrimoine du musée du Quai Branly, musée qui détient à lui seul, cher Yves, 70 000 œuvres et objets d'art d'Afrique subsaharienne parmi les 88 000 que comptent les collections publiques françaises. Et vous avez effectivement été l'un des interlocuteurs de la mission Sarre-Savoie. Et vous êtes évidemment au premier chef concerné par cette grande question. On va en débattre ensemble, mais Yves, c'est vrai que c'est une des grandes questions qui doit occuper votre esprit en ce moment.
On a été assez peu consulté, il faut le dire. Le rapport Savoie-Sarre a été très peu en direction des musées, au profit de ce que je regrette, à savoir une sorte de pamphlet un peu dogmatique et idéologique. Et je dirais que c'est un peu une occasion gâchée par rapport à la proposition du président Macron qui est tout à fait justifiée. Il a totalement raison. D'ailleurs, ça a été dit par un Africain qui est Monsieur Godonou, qui était responsable de l'école du patrimoine africain. En effet, 95% entre 90 et 95% du patrimoine est en dehors de l'Afrique et il faut absolument que ça puisse être corrigé. Il faut que les jeunes Africains puissent avoir accès à leur patrimoine. Ce qu'a fait le président Macron est tout à fait salutaire, c'est-à-dire qu'il a élargi, il a officialisé des initiatives que nous avions déjà. Des initiatives à la fois de relations avec des partenaires africains, des relations avec des musées africains, des relations avec les personnes qui viennent régulièrement au musée du Quai Branly pour recevoir des formations. Et si vous voulez, le problème de l'extrémisme du rapport Savoie-Sarre, c'est qu'il gâche une occasion qui crée beaucoup de confusion et d'inquiétude à la fois chez les conservateurs, et je reviens, je suis allé récemment là à Libreville pour un projet de musée que nous avons. Je reviens de Dakar pour l'ouverture du musée des civilisations noires à Dakar, à laquelle nous avons participé par le prêt d'œuvres pour un an, et nous continuerons à le faire. Et il y a une espèce de confusion qui est née de ça, parce que les gens pensent que revenir sans autre forme de procès. Et tout ça, en fait, il faut l'organiser. Et vous avez des personnes qui, en Afrique, comme le dit le président, sont déjà responsables de musées. Il y a un tissu de musées avec lequel nous pouvons travailler. Donc je pense qu'il faut revenir à quelque chose de raisonnable.
Alors, on va aborder ce débat, mais auparavant, je voudrais présenter les autres invités. Yves, vous m'avez recommandé d'inviter, et je vous en remercie vivement, un de vos collègues, Honoré Tchatchouang Ngoupeyou. Bonjour, Honoré.
Bonjour.
Vous allez bien?
Je vais très bien, merci.
Vous êtes responsable des affaires culturelles de la route des chefferies au Cameroun. Vous êtes un spécialiste des questions de musée. Vous préparez une thèse sur sur les enjeux, les contraintes de conservation dans les musées de chefferie au Cameroun, justement, à l'Institut National du Patrimoine. Et donc, vous êtes concerné au premier chef par cette question. Et bien entendu, on en parlera avec vous sur le mode de présentation de ces œuvres, sur les autres solutions que nous aurions pour présenter ces œuvres, sur la façon de vivre avec ces œuvres, peut-être sur des modèles différents de celui du musée.
Avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même corriger une grave omission que nous avons constatée dans le rapport Félouine-Bénédicte Savoy. Et il faut noter que au jour d'aujourd'hui, le Cameroun est un très grand pays en matière de musées, assez avant-gardiste, et qu'il y a quelque chose de formidable qui se déroule sur le terrain. Et lorsque dans le rapport, il y a à peine un musée qui est présenté, à l'occurrence le tout dernier, en cours, qui est le musée de Bafoussam, alors que derrière, il y a toute une mastodonte, toute une logique patrimoniale qui est mise en place, parce qu'au Cameroun aujourd'hui, on a un peu plus de 80 musées sur l'ensemble du territoire, avec une forte polarisation dans la région de l'Ouest Cameroun, avec 17 musées de chefferie, que nous appelons au Cameroun case patrimoniale, qui ont été mis en place par le programme des chefferies. Et il fut parlé de l'absence de consultation. Et effectivement, aucun responsable de ces musées, aucun conservateur sur le terrain, n'a été consulté par la mission Savoy. Ce que je trouve très dommage d'entrée de jeu.
Ah oui, c'est très intéressant. Alors, je voudrais vous présenter notre troisième invité, évidemment, à votre côté, ou à notre côté, le très prestigieux historien d'art Éric de Chassé. Bonjour Éric.
Bonjour Jean.
Vous allez bien ?
Très bien.
Vous êtes le directeur de l'Institut National d'Histoire de l'Art, auteur d'une tribune qui a été publiée le 30 novembre dernier dans Le Monde, et dans lequel vous réagissez à l'annonce faite par le président Macron le 23 novembre qui concerne la restitution des 26 premières œuvres d'art de cette aventure au Bénin, et dans lequel vous soulignez des choses qui sont intéressantes. D'abord, un large assentiment des historiens d'art, dites-vous, à une restitution raisonnée. Alors tout est derrière ce mot raisonné, j'imagine, et que c'est là-dessus que nous allons parler. Mais auparavant, parce que je crois que ça peut fixer un petit peu le débat, vous ajoutez, vous recommandez de faire droit à la fois au local et à l'universel, ces deux pôles entre lesquels se déroule l'histoire de toutes les œuvres d'art. Et ça m'intéresserait beaucoup que vous nous disiez comment vous ressentez que cette mise en jeu des collections nationales et cette mise en jeu de notre relation avec l'Afrique met en cause les questions de l'universel et du local.
Il me semble que ce qui m'a intéressé à la lecture du rapport, ensuite, comme toute production intellectuelle, on peut la soumettre à la critique et il y a plein d'éléments sur lesquels je ne suis pas d'accord. Ce qui m'a intéressé, c'est le fait que ce rapport ouvrait très largement une discussion autour de la question de qu'est-ce que les nations, qu'est-ce que les peuples doivent conserver d'objets ayant un rapport avec leur histoire sur leur territoire national. Alors c'est une très vieille question dans la question même de la fondation du musée. C'était effectivement la question qu'avait ouverte avant, de façon très explicite, le président Macron dans son discours à Ouagadougou. Mais la première chose que je veux retenir de la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est que nous sommes convoqués par le rapport, on est littéralement convoqué d'ailleurs, hein, à réfléchir à cette question-là et en se focalisant sur la question de l'Afrique subsaharienne. Alors pour moi, la première chose, et c'est pour ça que je parle du local et du global, c'est que le tort, me semble-t-il, ça serait de penser qu'il n'y a que l'Afrique subsaharienne qui serait en jeu. C'est-à-dire que si on parle des musées et si on parle de cette question du rapport à des objets qui constituent une histoire locale, cette question se pose pour le reste du monde, et pour la France en particulier. Et que je suis frappé que le débat se soit engagé sur les termes qui sont ceux où il y aurait « eux » ou « nous », séparés. Alors avec ça change suivant le point de vue évidemment. Et nous, pas de façon inclusive, c'est du nous exclusif. C'est-à-dire ça fonctionne sur le principe de nous devrions garder pour l'ensemble de l'humanité, ou nous devrions récupérer des œuvres pour nous, et eux veulent quelque chose qui ne les concernerait que directement. Je veux dire par là que ce qui m'intéresse dans les œuvres d'art, alors ensuite je sais bien qu'à propos des objets d'Afrique subsaharienne, un certain nombre de personnes considèrent que cette manière de les considérer comme des œuvres d'art, c'est de l'eurocentrisme et c'est problématique. Mais ce qui m'intéresse dans les œuvres d'art, et ce qui intéresse un très grand nombre de gens dans les œuvres d'art, c'est précisément qu'elle nous renvoie à une dimension qui est celle qui tresse de façon très profonde le contexte dans lequel elles ont été fabriquées, qui est un contexte toujours particulier et local, une ambition qui est une ambition très souvent de type universel, c'est ce qu'on appelle l'art, on va dire, et puis ensuite un retour au local parce que puisque ce sont des objets, et pas juste des images qui circulent dans des livres ou sur Internet, puisque ce sont des objets, ils doivent avoir un lieu concret qui est un lieu local. Et que c'est à partir de cette chose-là que me semble-t-il, il faut réfléchir. Et que cette question de l'universel, elle est extrêmement présente dans le discours du président Macron, et elle est pratiquement absente du rapport.
Honoré Tchatchouang Nguépéyou, vous avez entendu l'intervention d'Éric de Chasset et vous avez ressenti, j'imagine, quand en l'écoutant comme moi à l'instant, que ces œuvres ont été tressées de significations nouvelles. C'est-à-dire qu'il y a non seulement la signification des œuvres qui ont vécu en Afrique, qui ont été prises là-bas, en Afrique subsaharienne, qui ont vécu dans des musées, qui appartiennent à la totalité de l'humanité, qui ont fécondé une partie de la création occidentale et qui pourraient revenir donc à nouveau. Mais les œuvres que vous conservez, vous par exemple au Cameroun, sont des œuvres qui ont vécu ces particularités-là, ou que vous essayez de vous espérez en récupérer, vous espérez les réinstaller d'une façon très expérimentale et nouvelle par rapport à ce qu'est notre idée du musée?
Ce qui me gêne beaucoup dans l'approche qui est mise en place, c'est on se considère, en fait, on se comporte comme si on était allé en Afrique, on a pris des œuvres qu'on est venu mettre dans des musées en Occident. Oui. Et on oublie un peu tout le parcours, toutes les singularités autour de ces œuvres-là. Et quand je prends le cas des chefferies Bamileke, par exemple,
oui,
il faut noter que dans les chefferies Bamileke, il y a ce qu'on appelle la logique des dons et des contre-dons. Et que les chefs Bamileke ont beaucoup donné en don des objets d'art. Et des objets d'art qui sont aujourd'hui dans les musées en Occident. Et ensuite, le rapport vis-à-vis de ces objets évolue. Le jeune Camerounais, le jeune Africain d'aujourd'hui n'a plus le même rapport avec les œuvres qu'il y a 50 ans en arrière. Et c'est intéressant de remarquer, par exemple, qu'il y a eu beaucoup d'opposition en faveur du non-retour des objets en Afrique. Ça veut dire que les paramètres de lecture sociologique ont évolué. La vraie question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait patrimoine pour l'Africain?
Et comment le rendre vivant aussi, ce patrimoine?
La vraie question, c'est qu'est-ce qui fait patrimoine pour l'Africain?
Oui.
Et est-ce qu'on a même laissé le choix de choisir aux Africains? Parce qu'on se comporte encore comme si on devait dicter ce qu'il y a à faire. 95% des œuvres sont parties déjà, je ne sais pas sur quels critères on a évalué, et on dit que 95% des œuvres sont parties, ce qui cause encore un tort pour l'Afrique. On pense bien faire, mais ça pose un véritable tort dans la mesure où on se comporte comme si les objets d'art qui sont hors d'Afrique sont les plus importants, parce que dans l'idée de 95%, c'est qu'on refuse de reconnaître qu'en Afrique, aujourd'hui, on a des objets. Je vous invite à venir au Cameroun, par exemple, dans les chefferies Bamileke, on peut dénombrer un peu plus de 2 millions d'objets. Et je mets quiconque à défi de me démontrer le contraire.
C'est vrai que c'est passionnant ce que vous dites, parce que ça prend tout à fait le contre-pied un petit peu culpabilisant de ce que l'on lit dans le livre restitué le patrimoine africain. Yves Le Fur, vous êtes intéressé, surpris de cette réponse?
Non, je suis pas. Elle me conforte dans l'idée que j'ai toujours défendue, à savoir que cette question de musée et de patrimoine, elle était occidentale. Disons qu'une certaine conception du patrimoine correspondait à l'Occident, une autre peut correspondre à l'Asie, une autre peut correspondre à l'Afrique, etc. Et que cette diversité de conception de ce qui fait patrimoine pour une culture ou pour un peuple, elle était aussi intéressante que la diversité de l'humanité.
Je vous demande pardon, Yves Le Fur, de vous interrompre, mais au fond, ce qui fait patrimoine pour des pays, en tout cas ce que l'on peut considérer, c'est leur réclamation. À partir du moment où, suite à ce rapport, suite à cette déclaration du président Macron, on vous réclame, et on vous réclame de plus en plus, et il y a une contamination de la réclamation qui va toucher non seulement les musées français, le musée de Tervuren, mais l'ensemble des musées occidentaux, ça veut dire que s'il y a une réclamation, c'est qu'il y a un désir, il y a un besoin.
C'est peut-être un désir, mais il faut rester raisonnable.
Vous pensez que c'est un désir opportuniste, en fait?
Il y a un désir opportuniste par rapport à des objets qui peuvent faire aussi des prix assez colossaux dans des ventes et autres. Mais non, mais il faut le dire. Il y a eu. On parlait de ce qui fait patrimoine, par exemple. Il se trouve que il y a un objet pour lequel on n'a pas du tout eu d'attention à l'heure actuelle, qui est une ceinture qui a été faite avec un morceau de drapeau vraisemblablement à Tahiti, de drapeau rouge anglais. Donc c'est un objet qui a, selon les personnes, une importance capitale. Ils ont demandé cette restitution, mais ça ne pose aucun problème.
Il y a eu, parce que c'est un objet qui n'est pas un chef-d'œuvre de votre point de vue personnel, mais qui n'avait pas été du point de vue de l'esthète européen.
Mais un porte-flèche Luba qui va faire 5 millions d'euros, c'est peut-être pas non plus un objet qui va être intéressant dans le patrimoine de la culture.
Alors, il y a quelque chose d'autre quand même sur lequel je voudrais intervenir, puis je vais vous donner un exemple. C'est que derrière ce désir de restitution, il y a un désir de justice. Cette question de la justice, c'est quand même un sentiment vague de culpabilité que très simplement Michel Léris appelait son malaise. Il parlait il disait qu'il avait la conscience à demi tranquille. Donc l'Occident a une conscience à demi tranquille, et il se peut que ça soit cette intranquillité qui justifie le fait de ces restitutions. Écoutons ce que dit Michel Léris, et Éric Duchassé, si vous le voulez bien, vous le commenterez.
Les méthodes de collecte des objets sont 9 fois sur 10 des méthodes d'achat forcé, pour ne pas dire de réquisition. Tout cela jette une certaine ombre sur ma vie, et je n'ai la conscience qu'à demi tranquille. Autant des aventures comme celle des enlèvements du Kono, tout compte fait, me laissent sans remords, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen d'avoir de tels objets, et que le sacrilège lui-même est un élément assez grandiose, autant les achats courants me laissent perplexe, car j'ai bien l'impression qu'on tourne dans un cercle vicieux. On pille des nègres, sous prétexte d'apprendre aux gens à les connaître et à les aimer, c'est-à-dire en fin de compte à former d'autres ethnographes qui iront eux aussi les aimer et les piller. Michel Léris, 1931.
Vous êtes sur France Culture et nous sommes en train de parler de la question de la restitution du patrimoine africain suite à la publication du rapport de Félouine Sarr et Bénédicte Savoie aux éditions du Seuil, à la demande du président de la République. Et on entendait à l'instant Michel Léris parler de son intranquillité sur les méthodes de collecte, et c'est sur cette intranquillité qu'insistent beaucoup Félouine Sarr et Bénédicte Savoie dans leur rapport. Qu'en pensez-vous d'ailleurs, Éric de Chassel, de cette intranquillité ?
Cette intranquillité, elle peut exister, elle est justifiée, et qui mieux que Léris, qui par ailleurs a continué à s'intéresser à ces objets, à les collecter, à les montrer, à, etc., pour le dire, on ne peut que respecter ce sentiment-là, mais l'histoire de l'art, ni l'histoire de l'art, ni les relations internationales, en tout cas, jusqu'à plus ample informée, ne sont fondées sur des sentiments. Ils doivent être fondés sur la justice. Ouais. Et la justice me semble être une question essentielle dans cette affaire-là. Il faut faire en sorte qu'on ne soit pas avec une justice à deux vitesses. Que les pays occidentaux aient discuté entre eux du fait que des prises de guerre étaient illégitimes à partir d'un certain moment, à la fin du 19e siècle, quand on a signé un traité sur ce sujet, ça concerne effectivement les pays occidentaux, et on peut considérer qu'à partir de ce moment-là, la question est close pour tout ce qui s'est passé de façon antérieure et dont on sait la violence pendant les guerres révolutionnaires, pendant les guerres napoléoniennes, pendant l'occupation par les Romains d'Athènes, on a une longue tradition, mais ça se fait entre égaux. La différence qui se passe avec l'Afrique subsaharienne, et c'est intéressant que ça soit que l'Afrique subsaharienne et
oui,
pas l'ensemble de l'Afrique,
être le Vietnam,
ou l'ensemble des pays coloniaux,
la Cochinchine,
c'est que précisément l'Occident a colonisé l'Afrique subsaharienne avec un sentiment de supériorité radicale et un sentiment du fait que, en le faisant, on respectait la justice. Si on croit en des valeurs universelles, et c'est la seule justification de ce type de préoccupation, me semble-t-il, malgré un certain nombre de dérives de ce point de vue-là, effectivement, on peut considérer qu'il faut rendre justice, ou qu'il y a une certaine justice qui peut passer, qui peut conduire à certaines restitutions, dans la mesure où la preuve est faite qu'il y a eu une injustice, et que, en plus, cette injustice a pu être commise dans le cadre d'une action mené par un État, en l'occurrence la France, et puis chaque État se débrouillera de la façon dont il a commis ou pas des actions avec des bras armés différents. On connaît des pays qui ont mené leur politique de colonisation à travers des compagnies privées, mais en réalité c'est bien l'État qui a mené la politique de colonisation. Et à partir de là, il s'agit pas de... Le problème, ça serait de considérer que c'est le sentiment qui fait la justice, et donc de se dire bah, puisqu'on a ce sentiment de culpabilité, on va effectivement tout renvoyer pour se débarrasser de la culpabilité. On va se débarrasser des objets et la culpabilité avec. Certainement pas. Ce qui est important, c'est la justice, et la justice, elle passe par l'histoire et par une histoire précise.
Alors écoutons la façon dont Félouine Sarr, lui, présente sa démarche. Écoutons-le. C'est sur RFI.
En fait, il s'agit de replacer donc l'histoire et de permettre aux Africains de se réapproprier leur mémoire à travers ces objets qui avaient plusieurs fonctions culturelles, fonctions artistiques, fonctions spirituelles. Et je pense qu'il est important de souligner que ce que nous avons fait avec Bénédicte, c'est un travail de typologie qui essaie de distinguer les différents gestes de l'appropriation et d'indiquer les gestes pour lesquels le consentement n'était pas acquis. Et c'est ces objets-là dont nous préconisons la restitution en premier. Et pour les autres, un travail doit être engagé avec les différents experts des deux continents. Mais ce qu'il est important de souligner aussi, c'est que la portée de cette restitution va au-delà du fait de ramener des objets dans le continent africain. Mm-hmm. Il s'agit aussi de dire, nous refondons des modalités relationnelles. Il y a des modalités relationnelles du passé qui n'étaient pas adéquate ou bonne ou éthique, des gestes qui étaient fondés sur la violence, sur la domination, sur la symétrie. Désormais, nous sommes à une époque où cette moralité relationnelle n'est plus envisageable.
Fondée sur la symétrie, comme vient de le dire Félouine Sarr, c'est exactement ce dont Éric de Chassay parlait à l'instant. C'était extrêmement important et intéressant. J'ai bien apprécié votre façon, Éric, de présenter les choses, parce qu'effectivement, désormais, c'est la justice. Mais pour ça, ça demande un travail d'historien. Ce travail d'historien, Yves Le Fur, est fait déjà. C'est-à-dire, on sait à peu près dans quelles conditions chacune des œuvres du Quai Branly a été...
Je crois que, en effet, le rapport à l'histoire, donc à la preuve, à l'archive, à toutes les données auxquelles on pourrait avoir accès, il est très très important. Malheureusement, la plupart du temps, on est loin d'avoir pour chaque objet son histoire et sa provenance. Maintenant, on a aussi d'autres moyens, maintenant scientifiques, pour avoir accès à une une histoire un peu plus précise, mais malheureusement, et comme dans de nombreuses autres cultures, et même dans notre propre culture, on a du mal à avoir la provenance ou l'histoire de chaque œuvre. C'est difficile.
Éric de Chassé.
Non, alors oui, c'est difficile, mais on a fait ce travail et on le fait de plus en plus. On voit très bien, pour le cas des spoliations des biens juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, à quel point on a mis du temps pour faire le travail, en dehors de quelques volontés individuelles, et à ce que ça émerge comme une véritable question. Il y a un moment où, effectivement, je pense qu'il faut une volonté politique et une volonté d'une communauté large pour dire c'est une question, c'est-à-dire ça n'est plus possible d'exposer un certain nombre d'œuvres sans avoir fait des recherches sur leur provenance, et de façon, ça vaut pour l'ensemble des œuvres d'art dans les musées, ça vaut de façon singulière, me semble-t-il, pour le patrimoine originaire d'Afrique subsaharienne qui est présent dans nos musées, où souvent on a des désignations qui sont très approximatives, simplement parce qu'on n'a pas fait la recherche. Je pense... Un objet qui était présenté dans l'exposition L'Atelier de l'Europe, qui était une grande exposition et où il y avait une section à Bruxelles, où il y avait une section sur le regard des autres, on le présentait en insistant sur le fait que c'était une corne d'éléphant venant du Sierra Leone, mais que c'était surtout quelque chose qui avait été prise par les Européens du XVIIIe siècle comme étant un olifant de Charlemagne. Alors oui, là on est à un moment... se rendre compte de notre eurocentrisme à travers les questions qui nous sont adressées par cette situation, ça me semble effectivement une urgence. Certains musées ont fait ce travail, d'autres doivent encore le faire. Par ailleurs, il se trouve qu'on manque en France de recherche sur l'histoire de l'art africain en tant que tel, faite en dehors des musées et des départements.
Alors, il y a un vrai, tout à fait d'accord là-dessus, à savoir que c'est le travail quotidien des conservateurs. Juste pour citer un exemple, un des plus vieux masques du Sénégal qui est venu comme objet indien des Amériques. Pourquoi ? Parce qu'il a fait le commerce triangulaire. Il est parti du Sénégal, il est allé en Amérique et il est revenu en France comme objet indien. Donc ça, si vous voulez, cette recherche historique, elle est faite de manière quotidienne par les conservateurs.
Oui, mais avec des moyens limités, forcément limités, tant que ça n'est pas une priorité générale.
Non, je pense
que... Vous pouvez, au Quai Branly, le faire de façon extrêmement active, mais on va dire les choses. Il y a des fonds extrêmement importants d'art d'Afrique subsaharienne un peu partout en France, dans des musées qui ont parfois des caractéristiques différentes. Comment voulez-vous qu'un conservateur qui est déjà débordé par le temps, si son maire, pour parler des musées qui sont des musées de collectivité territoriale, ne lui dit pas, à partir de maintenant, je vous donne les moyens en temps et en financement pour faire cette recherche, eh ben, ça va dépendre de l'appétence de la personne en question. Le musée d'Angoulême a fait un travail remarquable. Le musée de Boulogne-sur-Mer, sur ses collections inuites, a fait un travail remarquable. Mais ça reste...
C'est ce que vous réclamez dans la tribune que vous avez faite, Éric de Chassé.
C'est une vraie priorité de ce point de vue-là.
Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que Bénédicte Savoie, intervient et dit assez clairement, si on savait dans quelles conditions, et si c'était écrit sur les cartels des œuvres, dans quelles conditions les œuvres ont été prises, empruntés ou volés ou vendus ou achetés, etc., eh bien le public serait absolument scandalisé et aurait envie de rendre l'ensemble de ses œuvres volées. Elle en fait quelque chose de très émotionnel.
Non, mais c'est pas que des œuvres volées. Faut pas exagérer non plus. Là, on a l'impression qu'il y a 70 000 objets qui ont été pillés.
C'est ce qu'on a comme sentiment.
Non, ben c'est totalement faux. Et comme je le disais, les recherches, les conservateurs sont pas toujours tout seuls non plus. Pour faire ça, ils se rencontrent. Je pense à un exemple au musée dans un musée en région. l'occasion, il y a un conservateur qui est venu en voir un autre et qui lui a dit « Tiens, qu'est-ce que c'est que cette statue ?» Il a dit « C'était marqué, il y avait un cartel de Guyane ou des Amériques, statue des Amériques. » Il se trouve que c'est une des rarissimes statues de Mangareva. Et donc, tout d'un coup...
Mangareva, c'est-à-dire ?
En Polynésie. Et donc, je veux dire, les gens, ils se parlent aussi, ils font... Et ces recherches, elles se font de manière quotidienne, j'insiste encore là-dessus, dans les réserves.
Alors, Yves Lefur, il y a une des raisons, et là j'aimerais bien que Honoré nous en parle aussi, une des raisons pour lesquelles, utilisée en tout cas par les contradicteurs de ce mouvement de restitution, qui est quand même extrêmement intéressant et nouveau, qui serait qu'il n'y a pas de musée en Afrique capable d'accueillir ces œuvres, et au fond, les musées occidentaux les ont protégés, les ont aimés, les ont rendus fécondes pour les autres artistes. Si on les rend là-bas, ça sera détruit. Pourtant, il y a des moments où on lit dans le texte qu'il y a 500 musées en Afrique. Quelle est la réalité de la situation là-bas, Honoré ?
Je vais commencer en prenant une image qui m'amuse beaucoup. Lorsque vous consultez le catalogue des collections, par exemple, du musée du Quai Branly, vous vous rendez compte qu'il y a des photos d'objets qui ont été prises pendant la colonisation, par exemple, dans des pays africains. Et sur place, sur le terrain en Afrique, vous retrouvez d'autres objets qui sont conservés jusqu'à nos jours. Je veux dire, vous avez des missions de collecte qui ont été effectuées, par exemple, dans les années 30. Des objets qui sont conservés au Quai Branly. Et une partie de ces objets-là qui continuent également à être conservés en Afrique aujourd'hui. D'une chose ou l'autre. La vraie question, c'est comment les objets qui sont en Afrique aujourd'hui parviennent à être conservés dans des conditions qui sont différentes de l'approche occidentale.
Oui.
C'est ça l'une des questions.
Parce que, excusez-moi Honoré, vous allez continuer, mais il y a des musées assez conventionnels qui ont été construits récemment, à Dakar par exemple, et puis il y a des musées non conventionnels qui nous proposent d'autres types de relations à l'objet.
Il y a les deux approches. Vous avez d'un côté des musées assez conventionnels, comme vous l'avez dit, qui obéissent à la logique occidentale, et vous avez d'un autre côté une autre approche alternative, avec des musées qui s'adaptent aux enjeux et aux exigences locales. Parce que normalement...
Les exigences locales et les enjeux, ça veut dire quoi ? C'est une possibilité culturelle, une possibilité cérémonielle
tout
autour
à fait,
des objets ?
Tout à fait, parce qu'en Afrique, on produit l'œuf pour utiliser.
Oui.
L'œuf est produit pour être utilisé au sein de la culture et des traditions locales.
Et ces œuvres ont supporté l'écologie de l'époque, de toute façon.
Et si ces œuvres ont supporté l'écologie de l'époque, ça veut dire qu'il y avait... tout un écosystème autour de la conservation de ces objets. C'est pourquoi j'aimerais rebondir sur le discours du président Emmanuel Macron, parce que le président Emmanuel Macron, il ouvre une brèche salutaire. Il ouvre une brèche salutaire parce que jusqu'à présent, moi en tant que professionnel africain, je me sentais un peu frustré. Frustré de me rendre compte qu'on ne peut parler que des musées qui sont géographiquement situés en Europe, en Amérique, etc. etc. Et avec la déclaration du président Macron, aujourd'hui, de plus en plus, il faudrait qu'on regarde aussi les musées, si je peux dire, les musées de la périphérie, entre guillemets, qui sont les musées africains et qui ont également beaucoup à apporter au monde entier.
Alors ce qui est très intéressant, c'est que dans ce que vous dites, c'est que vous avez l'impression qu'il y a vraiment une brèche enfoncée par le président Macron. Yves Lefur, vous pensez qu'au fond, ce discours, ce projet, ce propos est fécond. Il va se passer des choses intéressantes. Ou est-ce qu'il est destructeur ?
Non, je pense que c'est tout. On est.
Je veux pas briser ta carrière. Hein,
On est. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce point, à savoir que en effet, c'est tout à fait salutaire et que ça dynamise des initiatives qui sont éparses et qui ont quand même le mérite d'exister, que ça soit en Afrique ou que ça soit ici, sur toutes les questions en fait qui consistent à avoir un intérêt renouvelé sur la circulation des œuvres, avoir un intérêt renouvelé sur la création de musées locaux, avoir un intérêt renouvelé pour la formation aussi. Et il l'a dit et on peut insister parce qu'on le fait. Mais on le fait un peu de manière en pointillé. Il faudrait le faire. Vous parliez tout à l'heure, Eric, de professionnels pour l'histoire de l'art. Je pense qu'il faudrait aussi qu'il y ait des professionnels qui enseignent l'histoire de l'art, qui soient africains, par exemple, et qui soient formés dans ce sens-là. Nous, on accueille
la présence d'Honoré à l'Institut national du
patrimoine. Oui, mais la preuve, c'est que sa présence est très précieuse puisqu'il est là, aujourd'hui, mais il faudrait que ça soit beaucoup plus, si vous voulez, beaucoup plus développé. Donc tout ça, c'est évidemment très salutaire, mais ça ne doit pas prendre des formes dogmatiques, extrémistes, telles qu'on a pu le voir. Alors c'est peut-être une négociation qui demande beaucoup pour avoir un peu, mais je pense qu'il faut être raisonnable et avancer de manière structurée et dynamique dans cette direction.
Oui, Éric de Chassé.
Simplement, on pourrait aussi envoyer des universitaires et des conservateurs français se former en Afrique. On envoie des universitaires et des conservateurs français travailler sur l'Afrique. Ça, je suis en train de dire exprès se former en Afrique. C'est-à-dire que ça doit être une relation qui est une relation à égalité. C'est-à-dire que nous avons nous aussi à apprendre une autre manière de faire l'histoire de l'art, une autre manière de penser le musée et non pas à forcément remettre en cause celle que nous avons développée, mais en tout cas à l'interroger, à l'enrichir de cette façon-là. Enfin, moi, je crois à cette forme d'universel-là, qui est celle de l'égalité des hommes et des femmes sur la Terre, et qui fait que, effectivement, on peut se former mutuellement.
Mais quand j'entends le projet sur lequel travaille Honoré Tchatchong Ngoupeyou, qui est avec nous aujourd'hui, je me rends compte à quel point ça a des relations aussi avec la façon dont le corps peut s'emparer du musée, dont ça peut apprendre à rendre un musée absolument vivant et nous permettre d'avoir d'autres procédures. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce débat a fait naître énormément de réponses. Je pense par exemple, à la très belle tribune que Jean-Jacques Ayagon a fait sur cette question. Et aussi à la réponse très nuancée et assez curieuse, on l'entendra peut-être tout à l'heure, de Franck Risterne, le ministre de la Culture. Je voudrais qu'on entende une réaction qui est assez curieuse parce qu'elle commence un petit peu en langue de bois et elle finit un petit peu en énervement. Du président Stéphane Martin du musée du Quai Branly.
Vous savez, il y a la formule sacramentelle de la boîte de Pandore. Il ne faut pas ouvrir la boîte de Pandore. Mais en fait, je crois qu'il ne faut pas avoir peur du mot restitution. D'abord, des transferts de propriété entre musées, entre États, ça a toujours lieu. Ces œuvres, elles ont un statut particulier. Surtout, ce qui change depuis le discours de la réponse de Jean-Marc Ayrault, c'est que le Bénin est en train de construire 5 musées, dont un musée spécifiquement destiné à accueillir ces œuvres. Un musée qui sera, je crois, un musée moderne, ouvert au public, un partenaire pour le Quai Branly. Et donc, cette restitution-là, de 26 pièces, elle participe à cette œuvre de diffusion. Elle n'est pas une œuvre de revanche, elle est une œuvre de partage. Ouais, et ça, je trouve ça excitant. Je veux qu'on parle d'art, de partage, et non pas que l'on ressasse éternellement un ressenti qui est tout à fait réel, mais qui n'a rien à voir, à mon avis, avec une politique patrimoniale. Les musées ne doivent pas être l'otage de l'histoire douloureuse de la colonisation.
Vous sentez quoi? Nationaliste.
Quelque chose comme ça. Je veux dire qu'un monde dans lequel chaque. Ah, il y a une phrase terrible dans le rapport qui dit le problème commence. Alors, c'est une citation d'ailleurs légèrement sortie de son contexte d'un autre auteur. Le problème commence quand un musée cesse d'être un musée national pour devenir un musée de l'autre. Ça, c'est quand même terrible. Et donc, l'idée que toute la peinture italienne devrait rentrer en Italie, toute la peinture bretonne devrait rentrer en Bretagne, je trouve pas que ça ferait un monde meilleur.
On vient d'entendre le président Martin donc intervenir et dire, après tout, les musées ne doivent pas, une politique patrimoniale ne doit pas tenir compte de la colonisation. Vous avez une nuance là peut-être à apporter, Eric de Chassé.
Non, il me semble simplement que la politique patrimoniale, par définition, elle a à voir avec l'histoire. La colonisation fait partie de notre histoire en France et effectivement, s'y confronter est une vraie nécessité. Je veux dire, on ne peut plus. Enfin, c'est à la fois pour des raisons simplement de vérité historique, mais aussi de ce qu'est notre pays aujourd'hui avec sa diversité. Avoir une vitrine dans tel musée qui présente Gallieni comme explorateur, pacificateur et conquérant, c'est simplement impossible. Il faut parler de la colonisation de façon concrète, l'accepter comme un fait historique et en tirer des conséquences pour la relation qui va se fonder dessus. Tant qu'on ne le fait pas, on est coincé par ce rapport figé à l'histoire qui fait qu'on est dans un rapport aussi où le présent est complètement essentialisé. Moi, je crois à la force de l'histoire pour permettre d'enrichir notre rapport au présent. Et donc, cette présence de l'époque coloniale, dans sa complexité, le rapport, par exemple, ne traite à peu près que, pas dans la liste d'objets qu'il annexe, mais ne traite à peu près que de l'Afrique occidentale francophone, grosso modo. L'Afrique orientale, elle n'existe pratiquement pas. D'ailleurs, il arrête la colonisation en 1960, ce qui concerne ces pays-là, et il oublie que Djibouti s'est été colonisé par la France jusqu'en 1977 ou 1976, je ne sais plus, que la Namibie a été une colonie de l'Afrique du Sud jusqu'en 1980. Donc il y a même des colonies intra-africaines. Ça me semble devoir être pris en compte véritablement.
Est-ce que vous pensez, Yves Le Fur, que ce débat qui est en train d'être très intéressant, au fond, parce que on relie l'ensemble de notre histoire, on relie notre relation, et c'est surtout sur ce thème de relation que vous venez de mentionner, Éric de Chassé, que je voudrais vous interroger, Yves Le Fur. Est-ce que vous avez l'impression que de nouvelles relations positives vont naître ce mouvement d'idées qui séduit quand même, ou qui intéresse en tout cas beaucoup les jeunes générations d'historiens d'art et de conservateurs?
Oui, je l'espère. Hein. On parlait de boîte de Pandore, c'était l'espérance qui était au fond de la boîte de Pandore.
Ah, donc l'espérance est là. Donc vous pensez que cette brèche ouverte dont parlait Honoré tout à l'heure, vous aussi, donc elle est positive. Est-ce que vous avez senti factuellement une extension des demandes? Parce que on a commencé par 26 restitutions qui concernent le Dahomey, il y a quelques donc qui sont acceptées, le Bénin donc aujourd'hui, et donc qui pose évidemment quelques questions juridiques. Mais est-ce que depuis vous avez reçu d'autres demandes? Est-ce que d'autres pays ont été interrogés de la même façon que nous nous interrogeons nous-mêmes?
Oui, mais c'est ce qui est un petit peu dommage, c'est que justement ces demandes se font dans une sorte d'open bar en fait, où étant donné que tous les objets sont sur le site, on a des demandes de ici 540 objets, là 1000 objets, ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut que chaque demande on puisse la travailler, on puisse discuter, avoir un dialogue avec les personnes et avec les différents supports qu'on peut avoir.
Je voudrais que vous réagissiez à ce que dit Bénédicte Savoie. Nous ne prenons pas la restitution de toutes les œuvres, parce que c'est quand même écoutons ce qu'elle va dire. Oui. Écoutons-la.
Nous ne préconisons évidemment pas la restitution de dizaines de milliers d'objets, que personne ne la souhaite, ni en Europe, ni parmi les 150 interlocuteurs que nous avons rencontrés, notamment en Afrique, et que cette exagération pour faire peur, la peur en général, l'argument de la peur, du conflit, de la tension, c'est un argument qui empêche de penser l'avenir.
Vous êtes sur France Culture, nous parlons de cette restitution du patrimoine africain. Vous venez d'entendre Bénédicte Savoie parler de rectifier l'impression que a pu donner peut-être son rapport. Nous ne prenons pas la restitution de toutes les œuvres. J'ai l'impression que vous trouvez ces propos surprenants.
Oui, parce que ce n'est pas ce qui est dans le rapport. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse construire une relation raisonnable et stable en écoutant ce que veulent vraiment, quel est vraiment le désir des Africains, mais aussi d'autres, parce que avec ce rapport, on a aussi des demandes. On commence à avoir des demandes d'Amérique latine ou voire de l'Océanie. Il faut construire ce dialogue de manière correcte et raisonnable. C'est comme ça qu'on pourra arriver à avoir une vraie relation. Et puis je voudrais ajouter aussi que on parlait tout à l'heure d'universalité. Je vois pas pourquoi, à partir de ce moment, on ne pourrait pas avoir d'autres expositions, d'autres prêts, d'autres sujets qui ouvrent en fait les musées africains à d'autres cultures. Pourquoi pas imaginer, je sais pas moi, des trésors byzantins à Cotonou ou bien pas seulement dans l'art contemporain. On peut aussi avoir de l'impressionnisme à Yaoundé. Honoré, et de telle sorte à ce que on puisse vraiment jouer cette carte à la fois d'universel et de local dont on parlait.
C'est tout à fait ce que dit le ministre de la Culture, Franck Riester. Il dit notre objectif est très clair, les jeunes Africains doivent avoir accès à leur patrimoine, mais aussi à celui de l'humanité. Donc il est d'accord avec vous. Et cela passe par des restitutions, mais aussi par des prêts, des dépôts à long terme, des expositions, etc. Et il dit il ne s'agit pas de vider les musées, mais de travailler étroitement avec eux sur l'objectif de faire circuler les œuvres. Donc on sent que l'administration culturelle française essaye de pousser les choses vers une circulation plutôt que vers des dépôts ou des restitutions. Éric de Chassé.
Je peux difficilement me prononcer sur l'administration culturelle française en étant moi-même parti. Je serais malvenu de me poser en juge de ce point de vue-là. Ce que on peut dire quand même, c'est que c'est intéressant qu'on parle à chaque fois d'Afrique et qu'on oublie qu'il y a des musées avec des collections qui ne sont pas seulement des collections locales sur la rive nord de l'Afrique, sur notre rive sud, enfin ce qu'on considère nous comme la rive sud de la Méditerranée, c'est-à-dire en particulier en Algérie, au Musée des Beaux-Arts d'Alger, où il y a des œuvres de l'ensemble du patrimoine de l'humanité, ou au Caire, où le musée Khalil Bey est aussi avec une importante collection d'art occidental du 19e siècle, et je crois du début du 20e siècle, qu'il y en a un peu en Afrique du Sud, et que donc ce mouvement, il est déjà engagé sur le continent africain, donc il peut se généraliser. Moi, je pense que il est effectivement... c'est dans ce sens-là que j'aurais tendance à trouver qu'il faut aller, mais peut-être en acceptant de se dessaisir nous aussi réellement de quelques objets vraiment importants de notre propre patrimoine. Je vais dire une chose absolument horrible et ouvrir une autre boîte de Pandore, de ce point de vue-là, il me semble que fonder une relation, si on part de ce constat. Parce que finalement, le constat de départ qui est fait par le président Macron et qui me semble vraiment le point de départ important, c'est ce constat que les Africains n'ont pas accès à leur patrimoine. Et qui a de ce point de vue-là une spécificité. On peut en trouver d'autres exemples. Les Philippins n'ont que très peu accès à leur patrimoine historique, aussi pour tout un ensemble de raisons qui est assez équivalente, mais pas avec les mêmes pays. Voilà, on va pas donner des leçons au reste du monde. Mais que donc c'est bien là qu'il y a une spécificité, mais la deuxième, elle est que les jeunes Africains n'ont que peu accès au patrimoine de l'humanité. Et là aussi, il y a un problème, et c'est une différence avec, on peut prendre l'Amérique du Sud, effectivement, dans la plupart des musées brésiliens ou autres, on a du patrimoine local et du patrimoine universel. Il en va de même en Asie, quand on va au Japon, quand on va en Chine, quand on va, on trouve des objets de différentes provenances. Il y a une spécificité, pas absolue, mais une spécificité de l'Afrique, sur laquelle, effectivement, on peut travailler avec les Africains à partir de ce que eux-mêmes veulent. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de leur imposer.
Vous pouvez imaginer un échange, par exemple, au lieu de vous restituer ce chef-d'œuvre africain qui a été pris dans des conditions qui mériteraient une restitution, nous préférons, et si cela vous convenait, vous passer une montagne Sainte-Victoire de César.
Non, c'est pas nous qui allons. Je suis pas sûr qu'il faille que nous on le propose, mais s'il y avait des discussions qui allaient dans ce sens-là, je trouve que ça serait effectivement très beau. Peut-être en passant d'ailleurs par des restitutions effectives, enfin des restitutions des transferts de propriété. C'est-à-dire que on peut tout à fait imaginer qu'un pays africain qui demande la restitution de telle œuvre de son patrimoine national qui aurait été spolié puisse dire à un moment je veux bien vous la mettre en dépôt à très long terme et en échange vous me prêtez, vous me mettez en dépôt à très long terme telle œuvre de votre patrimoine qui fait sens pour nous. C'est-à-dire que de la même façon que les objets d'art africain ont exercé un rôle très important dans l'histoire de l'art occidental, l'histoire de l'art occidental a exercé un rôle très important dans l'histoire de l'art africain. Donc en être coupé, c'est-à-dire se retrouver éventuellement avec seulement des objets dans lesquels on voit l'effet des demandes ou de ce qu'on peut attendre des demandes occidentales sans pouvoir voir ce qui a suscité ces demandes, c'est un peu dommage.
J'ai l'impression, Norit Chachong Ngoupeyou, vous, jeune conservateur, responsable donc au Cameroun de la vie de ces musées des chefferies, si je puis dire, ou de ces chefferies, de ce patrimoine très particulier, que vous allez vivre en une période absolument incroyable. Ça va être stupéfiant ce qui va se passer. Il va y avoir des désirs d'échange, une reconsidération. Vous êtes à une charnière.
Disons que c'est une véritable évolution dans les choses et l'avenir sera encore beaucoup plus prometteur. Je suis très content que progressivement on quitte de l'angle judiciaire de la question des restitutions pour attaquer l'angle éthique, parce que tant qu'on reste sur l'angle judiciaire, on tend vers une impasse. Alors que nous, jeunes professionnels africains d'aujourd'hui, on ne rêve que travailler avec les collègues du monde entier. Il y a 17 musées, par exemple, au sein des chefferies au jour d'aujourd'hui, qui sont prêts à accueillir des expositions, qui sont capables d'accueillir des chefs-d'œuvre du monde entier.
En fait, ce que vous proposez, c'est un véritable dialogue et peut-être un dialogue très fécond et peut-être moins radical que ce que propose le rapport dont nous venons de parler et qui serait une meilleure base pour commencer des échanges réels et des retours concertés et ce que vous appeliez, Éric de Chassay, raisonnés. Merci beaucoup Éric de Chassay, merci beaucoup Honoré, merci beaucoup Yves. C'était une émission très complexe à faire sur un sujet incroyablement difficile et j'en suis très touché. D'ailleurs, je crois qu'au moment de la Nuit des Idées, vous allez réévoquer ce sujet, Éric de Chassay, à l'Institut National d'Histoire de l'Art.
Oui, à l'Institut National d'Histoire de l'Art, au moment de la Nuit des Idées, le 31 janvier, nous organisons une longue soirée de 7h30 du soir à 11h et quelques dans la salle Labrouste autour de ces questions de restitution, refiguration du patrimoine extra-occidental. C'est-à-dire que nous croyons qu'il faut effectivement mettre l'accent sur l'Afrique subsaharienne, mais ne pas oublier notre rapport plus complexe aussi à
quel jour
un patrimoine. Donc le 31 janvier.
Nous y serons, bien entendu. Merci Yves Le Fur. Merci infiniment Honoré.
Merci.
Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
C'était l'art et la matière par Jean Delouazy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu Honoré Chechuang Ngoupeyou, Yves Le Fur et Éric de Chassay à l'occasion de la publication de ce rapport « Restituer le patrimoine africain » par Félwin Sarr et Bénédicte Savoie, un grand débat national et international. C'était une émission préparée en collaboration avec Seam Boutata, lecture des textes Élodie Hubert, prise de son Philippe Mercher, réalisation Franck Lilin. Merci Franck. Et chers auditeurs, à 15h30, vous retrouverez Joël Gaillot pour son émission Une saison au théâtre et dans quelques instants, Personnages en personne par Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.